Avant de commencer, je voudrais remercier la personne qui a préparé les chants, parce que sans le savoir, elle était très inspirée. La remercier parce que le chant qui est « Béni soit ton nom », c'est les chants de louange anglaise, et c'est un chant qui m'a énormément aidée dans les épreuves. Et aussi l'autre chant que l'on chante souvent, celui qui dit « Il restaure nos cœurs brisés, nos craintes s'enfuient, elles s'enfuient ». Et parce que c'est oui, c'est lui qui nous donne la force de vivre. Et aussi ce dernier chant que l'on a chanté de Graham Kendricks, c'est Graham Kendricks, c'est l'un des premiers CD que j'ai écouté et que Serge m'a offert. Donc voilà, je voulais remercier cette personne et de son écoute du Saint-Esprit et de ce que Dieu lui avait mis sur le cœur pour ce matin. Donc ce matin, je suis là pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fait dans ma vie. Le chemin que nous allons parcourir, c'est ma vie en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, en tant que femme et disciple de Jésus. Avant de commencer, je veux remercier Jésus qui, dans son amour et qui, par sa grâce, m'a donné le privilège de le connaître. Parce que oui, c'est un privilège qui nous est fait de le connaître et qui vous a aussi été fait si vous l'avez accepté comme sauveur et comme Seigneur de votre vie ce matin. Et ce moment, il faut savoir le saisir. Et c'est ce que John nous a rappelé il y a quelques semaines par son témoignage familial. Parce que Dieu, ultimement, nous laisse libres de nos choix. Je veux aussi souligner mon amour et ma reconnaissance pour mes parents, parce que je les aime, et malgré leurs excès, je sais que leur seul désir, c'était le bien de leurs enfants. Leurs excès, je les comprends, et je pense que eux-mêmes, ils ont été et ils sont toujours victimes de leur passé et de leur propre enfance. Mon témoignage, c'est beaucoup de sentiments. Alors c'est des fois difficile de les transcrire, mais je vais essayer au mieux d'être juste. Ça m'a coûté de l'écrire parce que Jésus m'a libérée de beaucoup de choses, beaucoup de peurs, et j'ai dû donc aller fouiller dans tous ces bagages que j'avais laissés à la croix depuis longtemps. Je vais donc vous raconter l'histoire d'une petite fille à l'enfance somme toute paisible, qui habitait dans le Vieux-Lille dans les années 70 à 90. C'est l'histoire d'une famille où tout était centré sur les parents et sur les enfants. Et il n'y avait rien que ce cercle. Mon père a travaillé seul pour subvenir à tous les besoins de la famille, et ma mère avait fait le choix de rester à la maison pour la restaurer. C'était une de ces vieilles maisons des années 70 dans le Vieux-Lille dont personne ne voulait. Et elle nous élevait aussi, mon frère, et qui était plus jeune de moi de 4 ans, et moi-même. Et nous étions tout pour eux. On était le centre de leur vie. Et pendant toutes ces années, je ne leur ai connu aucune relation et aucun ami. C'est aussi l'histoire d'une enfant que les parents voulaient pousser à l'excellence et qui n'avaient pas le droit à l'échec. Et très vite, dès le CP, c'était l'excellence qu'il fallait atteindre dans la famille. Et j'ai très vite compris qu'il fallait apprendre vite et bien, et afin d'éviter ce que j'appellerais des complications, mais aussi pour satisfaire maman. À vrai dire, je ne manquais de rien. J'aimais lire, ce qui faisait le bonheur de mes parents, mais c'était surtout pour moi un refuge. J'avais mon frère pour jouer, et on avait une semaine de vacances chez mes grands-parents, près de Cambrai, en été. Bien sûr, avec plein de devoirs de vacances faits sur mesure par maman, pour couvrir les matinées, des pages remplies de pages d'écriture, d'addition, de soustraction, etc. Et puis j'ai eu 8 ans, et un piano est apparu dans le salon. Le conservatoire étant si proche, ma mère avait décidé de me faire faire du piano, pendant que mon frère, qui avait 4 ans, allait se mettre au violon. Au début, Je ne me posais pas de questions. J'aimais aller au conservatoire. J'aimais le solfège, j'aimais le piano. Mais très vite, j'ai réalisé que là aussi, c'était l'excellence et que je n'avais pas le droit à l'échec. Et les années ont passé et ma mère était plus que déterminée à ce que le piano et le violon aient une place importante dans nos vies. Pendant ces années, près de 15 ans environ, aucune amie, aucune camarade, aucune sortie extrascolaire, parce que c'était une perte de temps, parce qu'il n'y avait pas de temps pour ça. C'était comme une cage dorée, mais une cage avec des grilles et avec beaucoup d'interdits. Et personne ne voyait rien de mon angoisse, de mes peurs. Il y avait bien mes grands-parents qui essayaient parfois de parler à ma mère, mais que pouvaient-ils faire ? Ils voyaient bien que chez eux, en vacances, ou chez nous, on était toujours à étudier. Alors, je me suis renfermée sur moi-même et j'ai tout intériorisé. J'ai tout gardé en moi. Ça a été ma façon de réagir. Après l'école primaire, il y a eu les années de collège, puis de lycée. J'ai grandi, les années ont passé. Et de 1 heure de piano par jour, il fallait facilement faire plus de 4 heures à 6 heures par jour en temps d'examen. Les sections à l'école choisies par mes parents étaient très chargées, car ils voulaient toujours le meilleur. Et donc j'ai toujours gardé toutes les options, toutes les langues et les langues mortes. Il y avait le mercredi, le samedi passé au conservatoire, et le soir il y avait le piano et les devoirs, et toujours y arriver. Il n'était pas question, bien sûr, de se coucher sans un devoir fait, ce qui nous menait parfois très tard. Alors, il y avait la peur. Quelque chose que l'on peut difficilement restituer. La peur d'une enfant, la peur de ne pas y arriver. La peur parce que demain, il y aura des examens. La peur de ne pas faire face. La peur de ne pas être à la hauteur attendue. La peur de l'échec. La peur qui vous prend au ventre lorsque vous vous couchez. Parce que vous savez que vous n'avez pas le droit à la parole, vous n'avez pas le droit à l'échec. Parce que demain, la situation n'aura pas changé. Parce que devant vous, tout est noir et vous ne savez pas comment ça va changer. Enfant et adolescente, mon échappatoire, c'était de me créer un monde à moi, de m'enfermer dans un monde imaginaire, avec des amis imaginaires que j'avais hâte de retrouver une fois la lumière fermée. C'est aussi des scénarios impossibles de fuite, juste pour leur faire comprendre, je pensais. Et du fait de la pression, de la peur de l'échec, j'avais commencé à développer le trac, la peur de la scène et la panique du trou noir. Je redoutais le mois d'avril, lorsqu'étaient publiés les morceaux à préparer pour juin. C'était une peur mêlée d'un désir de tout arrêter. Pas d'arrêter de jouer du piano, mais d'arrêter les examens, d'arrêter la pression, de mettre fin à cette pression. Au point que plusieurs fois, j'ai pensé que ce serait si simple s'il venait à me manquer un doigt. C'est idiot, je sais, mais il s'en passe des choses dans la tête d'un enfant. Ma mère vivait son rêve à travers de nous, celui qu'elle avait eu enfant, de pouvoir faire du piano. Mais c'était son rêve, c'était pas le mien. Les années de ma première et de ma terminale ont été très dures pour tout concilier. Et puis, j'ai eu mon bac et une médaille au Conservatoire de Lille. J'avais 18 ans et je me disais que tout allait changer. Mais toujours pas de camarades, pas de sorties, pas besoin de travailler pendant les périodes de vacances, bien sûr, parce que mes parents pourvoyaient à tout. Et c'était inutile de toute façon. Est venu le temps de l'université. On me choisit les langues parce que ça ne demandait pas de temps. Là encore, maman me conduisait et venait me chercher pour gagner du temps. J'avais du temps pour mon piano, du temps pour aider mon frère à faire ses devoirs, du temps. Mon frère, lui, c'était le contraire. Son violon, c'était tout. Et il avait du mal avec l'école, qu'il devait continuer. À cette époque, mes parents étaient beaucoup plus concentrés sur mon frère, et qui allait rentrer au Conservatoire de Paris. Et moi, j'essayais de gagner du temps. Il y avait régulièrement des tensions, avec des menaces de me faire arrêter mes études universitaires. Ainsi, les années ont passé. 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Et toujours pas de lien social autour de moi. La fac, la voiture, la maison. J'ai bataillé pour continuer mon DUG, ma licence d'anglais, puis ma maîtrise d'anglais. Et bien sûr, sans mettre les pieds en Angleterre. À chaque anniversaire, je pensais toujours que mes parents allaient se réveiller et comprendre, me comprendre, mais aussi regarder la réalité en face. Que je ne voulais pas de leur projet irréaliste pour moi, que moi, même si c'était la musique, être professeur de musique, ça m'allait, mais c'était pas assez pour eux, c'était pas bien d'être prof. Que je n'enviais pas mon frère parce qu'il allait au conservatoire de Paris. Que je ne voulais pas de la vie qu'ils avaient pour moi. Je pensais aussi que la famille allait se poser des questions. Avec mes parents, oui, il y avait des discussions, mais ça tournait vite court. De toute façon, après de 24 ans, sans compte bancaire, sans emploi, sans permis et une fille, je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose. J'avais trop de respect pour eux parce que c'était mes parents et que je ne voulais pas leur faire de mal. C'était le moment de m'inscrire au CAPES et à la GREG. Et là, pas question pour mes parents que je devienne prof. Pas assez bien pour eux. Alors j'en ai entendu des arguments péjoratifs qui, je pense, viennent de leur propre enfance. Mes parents s'étaient renfermés sur eux-mêmes, au point que cette année-là, 1997, même aller chez mes grands-parents une semaine avec mon frère, s'était avéré presque impossible. Et c'est cette année-là que tout a basculé. Lorsque mes grands-parents m'ont demandé quels étaient mes projets d'emploi, et j'ai pu leur en parler et j'ai craqué. Mes grands-parents avaient bien vu que quelque chose n'allait pas, parce que j'avais 24 ans et ils ne comprenaient plus les choix de mes parents, qui peu à peu se renfermaient sur eux-mêmes encore plus. J'avais perdu énormément de poids et j'étais au bord de la dépression. J'étais même en dépression. Après une semaine supplémentaire passée chez mes grands-parents, au grand désespoir de mes parents, il y a eu des tensions et des discussions et je suis retournée chez mes parents avec des promesses. En septembre 1997, j'avais 24 ans. Je commençais mes études d'agrégation et un matin, alors que ma mère s'apprêtait à me conduire à l'île 3, on a eu une discussion dans la voiture avant de partir. Et j'ai compris que rien n'allait changer, que ce n'était que des promesses avec du chantage. Encore plus, j'ai compris qu'il ne me ferait jamais confiance. J'ai compris avec douleur qu'ils n'avaient pas compris, avec toute leur éducation, toute leur bonne manière, tout ce qu'ils m'avaient donné, j'ai compris qu'ils ne me feraient jamais confiance. Et ça a été très, très douloureux. Alors, j'ai prétexté que j'avais oublié quelque chose. Je suis retournée dans la maison, j'ai pris mes diplômes et j'ai pris ma carte d'identité. Et à mon arrivée à l'université, j'ai appelé mes grands-parents. Ça a été un moment très douloureux. parce qu'évidemment ça aussi engendrait beaucoup de choses dans la famille. De là, j'ai passé une année dans l'île en résidence, aidée par mes grands-parents. J'étais dans un état psychologique instable et je prenais des antidépresseurs. C'était aussi très dur parce que je culpabilisais. Je culpabilisais pour mes parents. Je culpabilisais aussi de ne pas avoir réagi avant. Et je pleurais aussi beaucoup, sans raison. Cette année a été ponctuée de visites chez mes parents, très éprouvantes. Parce que pour eux, selon leurs termes, j'étais morte le jour où j'avais quitté la maison. Comme je l'ai dit au début, je ne leur en ai jamais voulu. Parce que Dieu était là, avant que je le connaisse. Dieu a toujours été là pour me garder, physiquement et psychologiquement. Je ne le connaissais pas, je ne savais même pas qu'il existait. Mais lui, il me connaissait. Il a permis jusqu'à un point, et il a utilisé ses épreuves pour m'y rendre sensible. De par cette situation, j'ai échoué à mes examens et en juillet 1998, j'ai alors eu l'opportunité de me rendre en Angleterre et je me suis rendue à Ashford en Angleterre. Quel choc pour moi, qui ne connaissais l'Angleterre que par la littérature du 18e et du 19e. Une ville moyenne anglaise en plein été, avec ses excès, les tatouages, la bière et des comportements différents de la France, moins portés aussi sur l'apparence, une autre vie et une autre culture. J'ai commencé à faire des postes temporaires et puis je suis restée au-delà des vacances. Et je pense que Dieu a utilisé l'Angleterre pour me mettre au large, pour me mettre à l'écart. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes parents, ils vivent toujours dans l'amertume. Ils vivent toujours dans les regrets. Ils vivent toujours dans le passé. Et ils sont énormément attachés aux biens matériels. Donc j'ai commencé à faire des postes temporaires et puis je suis restée. Et en novembre 1998, j'ai trouvé un emploi à contrat déterminé dans une entreprise indéterminée dans une entreprise anglaise dont les propriétaires étaient français. J'ai aussi trouvé un appartement. L'Angleterre, c'est facile quand on est jeune. Avec du recul aujourd'hui, là aussi j'y vois la provision de Dieu. Après toutes ces années de privation et être dans un pays étranger, j'aurais pu basculer dans bien des domaines, mais non. À cause de mon éducation et des principes de mes parents, cela ne m'effleurait même pas l'esprit. Et au-delà de tout ça, j'y vois la protection de Dieu, qui m'a gardée, qui a gardé mes pas et qui a gardé mes actions. Dieu, je n'y pensais pas. Il n'existait pas pour moi. Tout avait une explication. Tout était logique. J'avais grandi dans un foyer sans éducation religieuse. Mon père était de très loin d'origine protestante et ma mère également de très loin d'origine catholique. Rien ne m'avait été imposé sur ce plan-là. Je choisirai un jour plus tard, si je le souhaitais. D'un point de vue psychologique, rien n'avait changé. J'avais toujours mes crises d'angoisse et de pleurs, et il y avait un grand vide en moi. Au travail, les premiers jours, je prenais le bus. Et puis un jour, il y eut Serge, qui travaillait là aussi, et qui s'était proposé de me raccompagner. C'était sympa parce qu'on pouvait parler de la France. On pouvait parler de musique française, de bien d'autres sujets. Et j'aimais bien ces moments de partage et de gentillesse. Il se montrait très ouvert au dialogue avec beaucoup de franchise. Et nous partagions notre passé et nos épreuves. Et un jour, je me souviens exactement l'endroit dans Ashford, à un feu, la voiture à l'arrêt, il m'a dit « Et Dieu, tu le mets où ?» Et je me souviens, je lui ai ri au nez et en fait, je lui ai dit que je ne voulais pas en entendre parler. Et il m'a dit que lui, il croyait et qu'il allait dans une église évangélique. Aller à l'église le dimanche matin, le dimanche soir et dans la semaine, quel gâchis de temps, je pensais. Mais il a persévéré. On a échangé sur la foi, sur Jésus. Il m'a offert un CD. Il m'a offert une Bible. Je ne sais plus exactement combien de mois plus tard, mais il m'a demandé si je voulais venir avec lui à l'assemblée où il allait, à 40 km d'Ashford. Ce jour-là, j'ai dit oui. J'ai trouvé ça étrange parce que les églises, j'y avais jamais mis les pieds. Mais ces gens, ils étaient simples. Ils étaient heureux d'être là. Alors oui, j'y suis revenue plusieurs fois. Il y avait la Sainte Seine. Serge m'avait dit d'éviter, que tant que je n'étais pas convaincue, il m'avait dit de laisser passer le vin et de laisser passer le pain, car je n'en connaissais pas vraiment la signification et je ne me l'étais pas appropriée. Je trouvais ça vraiment absurde. Je me disais, un bout de pain, un bout de vin, et moi je n'y avais pas le droit. Mais le Seigneur m'a vraiment interpellée sur le fait de les laisser passer, et ça m'a vraiment aidée à ne pas les prendre sans en comprendre pleinement la signification. Il y avait aussi les parler en langue dans l'église. À ce moment, je pensais vraiment connaître Serge. Je savais qu'il n'était pas fou. Et tous ces gens autour de moi, ils n'étaient pas dérangés. Alors, oui, mon esprit qui voulait tout comprendre, qui avait une logique, avait du mal. Mais à travers le parler en langue, le Seigneur m'a aidé, m'a interpellé à vouloir creuser, à vouloir aller plus loin, à comprendre, à essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et c'est dur de venir à Jésus quand on pense que tout a une explication. Donc je lisais la Bible avec mon intelligence, mais un jour, et c'est vraiment ce jour-là, où le Seigneur m'a donné une parole de réconfort. « Ne crains pas, car je suis avec toi, je suis ton Dieu. » Ma connaissance de la Bible était alors minime. Je ne l'avais pas lue avant. Je ne savais pas qu'elle était dans la Bible. Mais c'était vraiment comme si une voix audible m'avait parlé. Et cette parole, elle m'a comme transpercée. Et quand j'en parle, j'ai encore ce sentiment, j'ai encore cette présence sur moi d'avoir été transpercée par cette parole. Et à ce moment, j'ai vraiment su et j'ai cru qu'il y avait un Dieu qui m'aimait pour ce que je suis, que Jésus était mort à la croix pour moi et qu'il voulait être mon ami. J'ai pris mon baptême d'eau par immersion en décembre 2000 dans un groupe de maison qui se réunissait sur Ashford. Le parler en langue, don du Saint-Esprit, est venu plus tard, petit à petit. C'était frustrant, car il fallait lâcher prise. Il fallait que je m'abandonne encore plus. Mais je vous encourage, pour tous ceux qui n'ont pas reçu ce don, de persévérer pour le recevoir. En ce temps-là, Serge et moi avions changé d'emploi dans des entreprises différentes. Mais on continuait à se voir et on continuait à échanger. On était de très grands amis, une amitié qui nous a énormément soudés et qui nous a aidés comme couple lorsque nous nous sommes mariés. J'avais 29 ans. Notre petite église était sur la côte, pas loin de Foxton. Et l'enseignement de la doyenne qui avait 80 ans m'a laissé un profond souvenir, ancré dans la parole et dans la foi, dans la prière. Il faut savoir que pour moi, l'Église, je n'ai pas eu d'éducation et que je suis tout de suite rentrée dans des églises sans avoir une éducation religieuse avant. Elle m'avait confié le piano pour la louange de l'Église, trop contente de trouver quelqu'un qui lise à vue les anciens cantiques. Elle fut une réelle inspiration. Et c'est d'elle que j'ai reçu ce verset parce qu'elle aimait lire dans la Bible amplifiée, qui est une version anglaise. Et elle aimait nous dire qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, en parlant de Jésus et de la lumière, elle a donné le pouvoir, elle a donné le privilège, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, c'est un privilège, c'est un droit de devenir enfant de Dieu. À nous qui croyons, à nous qui adhérons, à nous qui lui faisons confiance et à nous qui nous appuyons sur lui. Lorsqu'elle s'est retirée, il a été temps pour nous de trouver une église plus près. Nous avons intégré une église Salt and Light qui a vite mergé avec une autre église de la dénomination New Frontiers de Terry Virgo. Cette église, pour moi, et cette expérience de l'église, ce fut comme ma maison. Ce n'était pas une église parfaite, il n'y en a pas. Mais pour la première fois, je découvrais une église qui était basée sur le modèle de l'église apostolique, avec des équipes pour les ministères qui sont mentionnés dans Éphésiens 4. Ce n'étaient pas quelques hommes, mais c'était tout le corps en action, sans exception. Ce qui fait que le corps n'était jamais fatigué. Il y avait dans cette église une richesse, un renouvellement, une diversité, une louange riche, un encouragement aussi. On était encouragé à découvrir et à acquérir de nouveaux dons. C'était un encouragement aussi à identifier les besoins autour de nous. C'est dans cette église que j'ai fait le parcours « Liberté en Christ » de Neil Anderson. Et si vous ne connaissez pas ce parcours, c'est très formateur pour recadrer notre identité en Christ. Une équipe pastorale m'a accompagnée pour me débarrasser de tous mes bagages, de mes peurs, de mes traumas, de ne pas laisser des brèches ouvertes à l'ennemi de nos âmes. Moi, qui, il y avait quelques années, trouvais un gâchis du temps, un gâchis de temps d'aller à l'église, le matin et le soir, le Seigneur m'avait bien transformée. Il y avait aussi notre relation en tant que couple avec Serge, avec beaucoup de témoignages sur la façon dont le Seigneur a conduit les choses. Il y a eu des années de bonheur, mais aussi d'épreuves, par des opérations que Serge a dû subir. Mais le Seigneur a été bon, et il est bon. Et puis les années ont passé, près de 20 ans, trop vite. J'aimais l'Angleterre, on revenait en France pour les vacances et pour voir mes parents. Mais l'Angleterre, c'était ma maison. Puis il y a eu le mot Brexit. Et les panneaux, leave, quitter, ou stay, rester. Et j'ai eu sur le cœur, avant l'élection, Now is the time to leave. Parce que oui, le Seigneur me parlait en anglais. Maintenant, c'était le moment de partir. Et ça ne m'a pas quittée. C'est le moment. Et je me disais, mais l'Angleterre, c'est tout. C'est là où on a tout construit. Et non, ça ne me quittait pas. C'est le moment. Et vous savez, quand vous avez quelque chose sur le cœur et que ça résonne et que ça revient, et puis vous essayez de le chasser, mais ça revient. Et puis voilà, il y avait ces affiches aussi que l'on voyait. Il y avait beaucoup de livres dans notre rue. Et En le repassant et en y pensant et en regardant la situation, j'ai réalisé que depuis quelques mois, il y avait des choses stables qui s'étaient écroulées autour de nous. Parce que moi, j'aimais bien être en contrôle. Serge vous le dira, je travaillais dans un cabinet comptable. J'aime bien être en contrôle des chiffres, j'aime bien savoir où je vais. Et donc, j'aime bien les choses stables. Et il y avait des choses stables qui s'étaient écroulées autour de moi. Serge venait d'être licencié suite à une restructuration de société. Il avait bien retrouvé un travail, mais c'était de courte durée. Et moi, qui aimais tant mon emploi, j'étais devenue un peu lasse. Et c'était comme si Dieu voulait me préparer à lâcher prise en enlevant des choses stables autour de moi. Revenir en France, ce n'était pas mon désir. Et pourtant, ça ne me quittait pas. Alors j'en ai parlé à Serge, très content. Lui, il n'attendait que ça de revenir en France. Et on a commencé à penser et on a commencé à prier le projet, car il y avait beaucoup à faire. Il fallait savoir où aller, il fallait savoir comment, et aussi il fallait connaître le système français. Parce que moi, j'avais été formatée système anglais. Et en France, ce système français, j'avais jamais été dedans et je n'avais jamais travaillé en France. Le 23 juin 2016, je me suis endormie avec, je crois que c'était 51% de sté, et le lendemain, c'était Liv, on sort. C'était un énorme choc. Et je pense que ça a été un énorme choc pour beaucoup d'Européens qui vivaient en Angleterre. On a mis de l'ordre dans les affaires, on a fait quelques peintures, et en mai 2017, nous voilà avec la maison en vente. En moins d'une semaine, nous avions un acquéreur, sans chaîne et sans emprunt, pour une sortie le 15 septembre 2017. J'avais bien tout calculé. J'avais calculé qu'il fallait revenir en janvier 2018. Oui, mais je n'avais pas prévu qu'avec un salaire et avec un chien, ça serait impossible de retrouver une location. On était à la rue, on serait à la rue mi-septembre 2017. Mais là encore, Dieu a pourvu par un couple de l'église qui nous a mis à disposition un appartement dans leur grande maison pour 3 mois. Rester à savoir où aller. Pour moi, pas de doute, c'était le sud et les Landes, le soleil. J'aimais tellement cette partie de la France. Alors on y est descendu, début octobre, pour une semaine. Mais pas une seule visite de fête. On a même écourté. Je n'avais pas la paix. Que faire ? Sur le chemin du retour, j'ai trouvé une annonce de travail sur Lambersart. Je connaissais le gérant pour lequel je faisais les comptes de la société anglaise. Alors j'ai postulé et aussitôt j'ai eu le job. Le Seigneur me connaissait. Heureusement qu'il ne m'a pas tout dit d'un coup. Revenir dans le nord de la France. Et en plus, il fait plus froid qu'en Angleterre. Restait à trouver une maison. On venait de louper une visite fin octobre et voilà que l'agence venait de nous rappeler, car les acheteurs n'avaient pas donné suite. Oui, il y avait des travaux, mais de l'espace, un jardin et un parking est dans notre budget. Combien je pense que nous avons été guidés et gardés. Car dans beaucoup de détails et dans le timing, nous pouvons voir la main de Dieu en action. Pour finir, je veux juste rappeler que Jésus peut satisfaire les besoins les plus profonds de notre âme. Il vous connaît mieux que vous-même. Jésus est le seul guérisseur de notre âme. Jésus a dit, et il dit aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous rendra libre. Ce matin, je pense qu'ici on connaît tous Jésus, mais en lui vraiment, il n'y a pas de déception. Et c'est en lui que l'on peut avoir la restauration des cœurs brisés. C'est en lui que nos craintes et notre passé peuvent s'enfuir. Et ce matin, je veux juste prier que si pour des raisons diverses, vous portez des fardeaux, si pour des raisons diverses, vous portez de la souffrance, juste vous rappeler d'en parler à Jésus. Oui, c'est vrai, vous le faites certainement, mais continuez à parler à Jésus. Continuez à lui amener ses bagages. Continuez à lui amener ses fardeaux à la croix. Et laissez-les à la croix. Et si vous venez à les reprendre à la croix, continuez à les ramener à la croix. Parce qu'un jour, vous les laisserez à la croix. Complètement. Je veux aussi prier que parfois le diable vient, parfois l'ennemi vient, et il vient et il nous dit « tu n'es rien ». Alors, souvenez-vous de ce que Jésus dit de vous. Souvenez-vous que Jésus, il a payé le prix, que Jésus, il est allé à la croix, que Jésus nous dit que notre vie, elle a de la valeur pour lui. Ta vie a de la valeur pour Jésus. Parce que Jésus nous accepte. Parce que nous sommes acceptés de Jésus. Et parce que, auprès de Jésus, nous sommes en sécurité. Parce que oui, Jésus a tout payé. Parce que si Jésus a pu faire ce miracle dans mon cœur, il peut aussi faire d'autres miracles. Il peut guérir la souffrance. Il peut guérir les peurs et il peut guérir toute autre situation à laquelle tu fais face aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ce que tu fais couler dans nos cœurs. Et Seigneur, tu nous aides. Je prie que chacun d'entre nous, tu nous aides Seigneur à avoir les besoins autour de nous. Que tu nous aides Seigneur à être des témoignages de réconfort. Des témoignages de réconciliation, Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour. Amen.